Chapitre 4. Dieu, que le monde est injuste, lui si beau et moi si laid. Je te donnerai la lune, tu ne voudrais pas m'aimer. Dieu, que le monde est injuste, Notre-Dame de Paris. Ginger. Je ne m'attendais pas du tout à ce que la soirée se termine comme ça. Pas du tout. Je ne suis pas de celles qui accordent de la place à la nostalgie. Le passé, les souvenirs, autant de choses révolues sur lesquelles on ne peut plus agir. Je regarde devant parce que la page est vierge dans l'attente de ce que je déciderai d'y écrire. Une bonne ou une mauvaise décision, peu importe, mais rien de définitif. Il aura fallu une chanson, une simple chanson qui a plus de 20 ans et que sans doute personne ne connaît, ou presque, pour que je me retrouve assise devant ces grands cartons exhumés des placards de mon dressing. Ils contiennent... Je ne sais même plus ce qu'ils contiennent. J'ai fourré là-dedans des tas de choses il y a des années, une vie presque, sans réfléchir, anesthésiée par une douleur indicible, et je les ai refermées. Ils ont déménagé, ont connu un grenier, un garde-meuble et un placard. Rien n'indique ce qu'ils renferment, hormis ce simple mot griffonné au marqueur noir dans le coin droit, « Maman ». Je ne suis pas de celles qui accordent de la place au passé, parce que mon passé à moi inclut la mort de ma mère, alors que je n'étais même pas encore adulte. Et personne n'a envie de vivre avec ce passé-là. Personne. Encore moins lorsque la mort en question, on se la donne. Il m'a fallu du temps pour voir, pour admettre que ma mère ne ressemblait pas aux autres mères, qu'elle traînait parfois des sacs de tristesse si lourds qu'ils menaçaient de défoncer le plancher à chacun de ses pas. Il m'a fallu du temps pour comprendre que les séries américaines qu'elle regardait avec passion étaient pour elle une échappatoire. Quand elle était à Santa Barbara, elle oubliait tout, jusqu'au fait que ce n'était pas la réalité. Elle me racontait parfois qu'elle était allée déjeuner avec Kelly et Eden Capwell, mais que c'était un secret entre elle et moi. Papa se fâcherait s'il l'apprenait. Il ne les aimait pas trop. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de ces maladies-là. Celles qui ne sont pas causées par des virus et qui ne guérissent pas en 15 jours avec une dose d'antibiotiques matin, midi et soir. Maman avait besoin de repos et je ne devais pas faire trop de bruit parce qu'elle dormait dans sa chambre. Maman était ailleurs, perdue dans ses pensées, parfois pendant des heures. Maman pleurait, recroquevillée sur le canapé, mais je ne devais pas m'inquiéter, ça irait mieux demain. Jusqu'à ce que ça devienne trop dur et qu'elle décide d'y mettre un terme. J'ai vécu des années avec cette conviction que c'était à cause de moi, que je n'étais peut-être pas assez gentille, pas assez sage, que peut-être j'aurais dû lui dire plus souvent que je l'aimais, que je n'étais pas assez bien pour qu'elle reste. Il m'a fallu du temps pour accepter que tout ça n'avait rien à voir avec moi, rien à voir avec être assez bien ou non, que c'était entre elle et la maladie, que le jour où elle avait commis ce geste irréparable, elle était partie bien trop loin, par-delà les frontières d'une réalité dans laquelle elle avait une fille de 17 ans. À l'intérieur du premier carton, il y a tout son rêve américain. Un mot utilisé à bon escient pour quelque chose qui ne devait pas se réaliser, le savait-elle? Je l'ignore. Je devais avoir 15 ans quand j'ai enfin compris. Je lui en ai beaucoup voulu. Parce que pour moi, le rêve avait la saveur d'une promesse, d'un pas tout de suite, mais un jour, c'est sûr. Je suis tombée de haut. Renoncer à un rêve dont on n'était pas à l'origine génère de la rancœur, beaucoup de rancœur. Je l'ai regardée continuer à acheter des guides, des bloc-notes, des pochettes. Je l'ai laissée me raconter ses bobards. Quelques semaines après sa mort, mon père m'a confirmé que nous n'avions même pas de passeport. J'ouvre la pochette estampillée « Ouest américain ». Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, Monument Valley, Lake Powell, Bryce Canyon, Death Valley, Mammoth Lakes, Yosemite, San Francisco. Le tout sur 15 jours millimétrés, avec les distances en kilomètres entre chaque destination, des photos découpées des lieux à voir, des noms d'hôtels, de restaurants. Des pochettes comme celle-ci, il y en avait une dizaine, toutes conçues de la même manière. La dernière concerne les parcs nationaux. Sur un carnet pour chaque parc visité. Ça lui mettait des étoiles dans les yeux. Pour chacun des parcs, elle avait griffonné des annotations. Parc national de Redwood, ours noir, baleine, prendre une photo devant un séquoia géant. Parc national des Everglades, flamant rose, alligator, lamantin, tour en bateau, prévoir des casques pour le bruit. Parc national d'Acadia, plage rocheuse, montagne Cadillac. Le second carton contient, lui, quasi exclusivement des photos. Elle en prenait des centaines. Elle avait ce besoin maladif, que je n'ai compris qu'avec tout le reste, de fixer un moment heureux pour l'empêcher de disparaître. Gamine, j'en avais plus qu'assez de devoir poser partout et nulle part et de devoir sourire. « Ça nous fera un souvenir, me disait-elle. C'est important, les souvenirs, Ginger. » J'ai toujours pensé qu'un souvenir devait avoir quelque chose de vivant, une odeur, une saveur, une émotion, loin d'une image figée sur papier glacé. Je pioche des clichés au hasard, ils ne sont pas classés. Il y a de tout. Des fleurs, des paysages, une assiette de crêpes, une paire de chaussures neuves, un escargot qui traîne une feuille derrière lui. De tout, mais surtout des photos de moi. Devant une porte, une grille, sur un banc, sur le sable, dans l'herbe, derrière un arbre, sur un vélo, dans mon lit, allongé sur une serviette, contre un mur, à table, en train de manger une soupe, sur une balançoire, dans une baignoire, en maillot de bain, accroupi caressant un chat, avec une montagne de pommes rouges dans les bras, des tas de photos de moi, souriantes, grimaçantes, boudeuses, en colère, des photos qui disent tout l'amour qu'elle me portait, des photos qui demandent pardon d'être partie. Il n'y en a presque aucune d'elle et moi. Elle n'aimait jamais celles que prenait mon père et les déchirait quasi systématiquement. Elle fermait les yeux, se trouvait trop ceci ou pas assez cela, parce que les souvenirs, c'était important. Il n'était pas question de garder quelque chose de moche. J'en trouve malgré tout une, rescapée de son jugement sans concession, ou plutôt, comme je le devine à la mention figurant au dos, mais de femme, préservée par mon père de sa vaine quête de perfection. Nous sommes toutes les deux assises sur notre canapé. Mes jambes ne touchent pas encore le sol, je dois avoir 6 ou 7 ans. Elle sourit à côté de moi, le regard perdu dans ce monde connu d'elle seule. J'hésite au moment de reposer la photo dans le carton, puis décide de la garder. Elle représente bien mon enfance, l'enfance heureuse d'une gamine qui ignore tout des mots qui rongent sa mère. Le dernier carton, plus petit, contient un caméscope désormais hors d'âge et des dizaines de petites cassettes dans leur boîtier transparent. Un jour, les souvenirs fixes sur photo se sont animés sur vidéo. C'était un cadeau de mon père pour son anniversaire, parce qu'elle répétait sans cesse que, quand même, une caméra, ce serait nettement plus pratique pour les États-Unis que de se trimballer avec des dizaines de pellicules photo, et qu'il en faisait maintenant des toutes petites. Des étiquettes rectangulaires blanches sont collées sur la tranche des cassettes, avec, pour chacune, la date de début et la date de fin. Sauf une, qui porte un sobre casting Ginger. Je déteste la chimie, je déteste tout ce qui tourne autour de la chimie, et je déteste M. Grickel, mon professeur de chimie. De toute façon, à quoi est-ce que ça me servira dans la vie de connaître la formule du volume molaire d'un gaz parfait? À rien! Ça me servira à rien! Comment s'est passée ta journée au lycée, ma puce? Me demande ma mère alors que je viens d'abandonner mon sac de cours dans l'entrée et de me précipiter vers le frigo et le meilleur réconfort qui existe, la glace à la noix de pécan. Grickel a décidé de nous pourrir la vie en nous collant une interro surprise. Déjà quand je révise, pendant des heures, je comprends rien que la moitié des exercices à faire. Mais alors là, prise au dépourvu, je hais la chimie. La chimie, ça devrait être interdit par la loi. À choisir, je préférais encore la flûte et les grands moments d'humiliation qui y allaient avec. Mais la chimie, pouah ! Soupirai-je en me laissant tomber sur le canapé, mon pot de glace dans les mains. Et toi, maman ? J'espère que ta journée relève le niveau de la mienne. Moi ? Je suis allée chercher le livre que j'avais commandé sur Las Vegas. Est-ce que tu savais que l'hôtel Mirage comptait 3044 chambres avec, dans chacune, des vitres teintées à l'or ? La chambre est à 200 $ la nuit, donc on ne pourra sans doute pas se le permettre, mais si l'on fait bien attention sur le reste des dépenses, peut-être qu'une nuit, ce sera possible quand même. J'en parlerai à ton père ce soir. Tu imagines, nous trois à Las Vegas, et tu sais, cette fois, ça va se faire, ma puce, hein, ça va se faire. Il ne me reste que quelques détails à peaufiner, et ensuite, avec ton père, on réserve les billets. Peut-être qu'elle dit vrai. Peut-être qu'on va vraiment aller à Las Vegas. J'ai l'impression que c'est différent cette fois. Il y a comme une exaltation dans sa voix, une sorte d'urgence. En tout cas, je suis heureuse de l'avoir retrouvée. Ces dernières semaines, elle était ailleurs. Ça n'avait jamais duré aussi longtemps et ça commençait à m'inquiéter. Et puis, l'année prochaine, tu auras 18 ans. Peut-être qu'alors, tu ne voudras plus partir avec nous. On ne fera pas le poids avec les vacances en camping entre copines. Oh, tu sais ce qu'on devrait faire pour que tu oublies ton interro de chimie? On devrait mettre Funny Girl. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardée toutes les deux. Je dirais qu'on l'a visionné il y a 6 mois à peine, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on reste si longtemps éloigné des aventures de Fanny Brice. C'est ma comédie musicale préférée, alors. Je vais chercher la cassette et toi tu prépares les pop-corns, je lui réponds avec enthousiasme. J'aime quand nous sommes assises l'une contre l'autre sur le canapé à regarder un film que l'on a déjà vu 1000 fois et à jouer au jeu de celle qui connaît le mieux les répliques. L'une de nous lance un « réplique » et l'autre doit prononcer la phrase suivante du film à voix haute, sans erreur. Celle qui se trompe récolte un gage, qui consiste en général à se lever pour recharger le saladier de sucrerie. Ça n'arrive pas souvent, encore moins sur Funny Girl. Est-ce que tu crois qu'elle sait qu'interpréter le rôle de Fanny Brice va la propulser au rang de star du cinéma ? Je me demande si l'on ressent quelque chose de particulier quand un moment qui va compter se produit dans notre vie. Je ne sais pas, ma puce. C'est vrai qu'elle est extraordinaire dans ce film. Et cette voix ! Nous connaissons les chansons par cœur, mais depuis un moment, maman préfère me laisser les chanter seule. Il faut dire que j'y mets tout mon cœur, comme si j'étais là-bas, à Broadway. Don't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a bowl of butter. Don't bring around the cloud to rain on my parade. Je suis debout, je tourne autour de la table basse. Je suis habitée par la chanson que j'adore. Je vibre, je suis Fanny Brice, puis je saute sur la table basse. Get ready for me, love, cause I'm a comer. I'm sipping, got a march, my heart's a drummer. Nobody, no, nobody's gonna rain on my parade. Je tiens la note aussi longtemps qu'il le faut, les bras grands ouverts, le cœur sur ce bateau qui remonte l'Hudson à New York. Ma mère m'applaudit, je salue mon audience, puis je reprends ma place sur le canapé. Il n'y a rien que j'aimerais plus au monde que de chanter cette chanson sur scène à Broadway. Marcher sur les mêmes planches qui ont vu défiler des centaines de stars depuis des décennies, ça doit être tellement puissant, tellement incroyable. Je frissonne. C'est toujours l'effet que me procure Funny Girl et la voix de Barbara Streisand, malgré tous les visionnages. On devrait enregistrer et envoyer une vidéo à un producteur. Quoi ? Je manque m'étouffer avec un pop-corn. C'est ce que font toutes les chanteuses avant de devenir des superstars. Elles envoient des vidéos, elles participent à des castings, pour être repérées ou pour obtenir des rôles. C'est ce qu'on devrait faire. T'enregistrer ? Et envoyer la vidéo à un producteur de Broadway. Tu chantes divinement bien, ma puce. Tu es peut-être la prochaine Barbara Streisand. Si ça se trouve, je suis assise à côté d'une future star de comédie musicale. Elle frissonne à son tour. Je ris. Quelques jours plus tard, elle m'avait convaincue de le faire. Casting Ginger. Je caresse du doigt ces mots écrits de sa main sur l'étiquette. Je n'ai jamais regardé ce que nous avions enregistré. La cassette n'a jamais quitté notre appartement. C'était notre dernier moment de joie, partagé toutes les deux. Parce que ensuite, il y avait eu cette profonde mélancolie, venue d'on ne savait où. Cette tristesse abyssale, ce regard de plus en plus lointain. Jusqu'à ce qu'elle décide d'en finir. Je n'avais pas ressenti d'émotion particulière en regardant Funny Girl ce jour-là avec elle. Pas plus que d'habitude, en tout cas. La vie n'avait fait tinter aucune clochette pour signaler que le moment était important et qu'il ne se reproduirait plus. Je dois visionner cette bande. Soudain, l'urgence s'impose à moi. Je me lève d'un bond et claudique jusqu'à mon bureau, les jambes engourdies d'être restée trop longtemps dans la même position. Je dois avoir un câble vidéo dans un tiroir quelque part, un câble qui me permettra de relier le caméscope à un ordinateur et de passer l'enregistrement. Je le sais parce que quelques mois plus tôt, au restaurant, c'est comme ça qu'on a fait pour projeter une vidéo d'enfance de Thomas pour son anniversaire. Je fouille dans un tiroir, puis dans un autre. Ah, il y en a un de ces bazars, des années que je me dis que je devrais faire un peu de tri. Comme ça ne va pas assez vite, je sors le dernier tiroir de son logement et le renverse sur le sol, jonché à présent de stylos, d'enveloppes déchirées contenant des courriers à traiter, de piles d'appareils électroniques abandonnés là dans l'attente d'une mise en vente, ou plutôt d'une mise au rebut, car qui voudrait acheter un iPod Nano première génération, et autres objets sans intérêt. Après quelques minutes de recherche fébrile, je mets la main sur le câble que je cherchais. Assise sur mon lit, l'ordinateur posé devant moi, je n'ai plus qu'à cliquer sur cette fenêtre noire et la vidéo se lancera. J'essaie de me préparer à ce que je vais voir. Plus de 20 ans après, mes souvenirs de cette scène sont vagues. Tremblante, je clique sur cette petite flèche synonyme de retour dans le passé. Je suis face à elle, assise sur un tabouret, habillée de cette salopette en jean que j'adorais, un bandeau dans les cheveux. Mais ce n'est pas ce qui me vrille instantanément le cœur. Bonjour, vous vous appelez Ginger, parlez-nous un peu de vous.
Sa voix. J'en avais presque oublié la mélodie. L'émotion est violente, trop violente. Je clique sur arrêt. L'écran se fige sur l'image de cette adolescente encore insouciante qui ignore que, quelques semaines, quelques mois plus tard, celle qui filme ne sera plus là. Les genoux remontés contre ma poitrine, je tente de contenir la douleur qui monte pour éviter qu'elle n'emporte tout sur son passage. Je ne contiens rien du tout, alors je ferme les yeux et je me laisse submerger. Les séquences sont saccadées et s'enchaînent sans grande cohérence les unes avec les autres. Ma mère dans la cuisine, en train de nous préparer sa spécialité des macaronis and cheese, nous deux dans une piscine, gloussant parce que l'eau est froide, ma mère et mon père dansant un rock lors d'un bal, elle assoupie dans le canapé en position fœtale. Je sais qu'il ne sert à rien de se poser des questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse, mais là, tout de suite, je suis incapable de faire autrement. Pourquoi, maman? Pourquoi? J'étais là, papa était là. Nous aurions pu t'aider. Je t'aimais si fort. Est-ce que tu le savais au moins? Est-ce que j'aurais dû te le dire plus souvent? Est-ce que tu as pensé à moi au moment où? Est-ce que tu as pensé à ce que j'allais ressentir? Pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé? Pourquoi as-tu renoncé? J'ai mal, si mal. Je repense aux jours qui ont suivi, à cet état de sidération dans lequel j'étais, à la douleur de mon père. Il a fallu que je m'occupe de tout, de l'administratif, des obsèques et de lui. Je me revois le prenant par la main, l'aidant à se déshabiller pour se doucher. En revanche, il n'y avait personne pour s'occuper de moi, personne pour me consoler. La mort a déjà un effet repoussoir, c'est mille fois pire lorsqu'elle n'est pas de cause naturelle. On ne sait jamais, au cas où le suicide serait contagieux. Par chance, à l'époque en tout cas, je l'ai pris comme tel, l'année scolaire se terminait. J'étais en dernière année de lycée, le mois de septembre ouvrirait une page blanche ailleurs. Je resterais la fille qui n'a plus de mère, mais personne ne saurait pourquoi. J'avais donc mis un mouchoir sur tout ça et j'avais regardé droit devant. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que j'aurais dû en parler. Pourrait-il l'être? Il me faut une demi-heure pour me calmer, pour revenir à l'instant présent, à ma chambre, à cette vidéo toujours figée sur la Ginger que j'étais. Je pourrais refermer l'ordinateur, ranger le caméscope avec sa cassette, mais quelque chose me dit que je dois la visionner, que c'est important. Alors je prends une grande inspiration. Et pour la seconde fois, clique sur play.
Je m'appelle Ginger, j'ai 17 ans. Je suis encore au lycée, mais mon rêve, c'est de chanter à Broadway, parce que c'est là que ça se passe. Parce que c'est là qu'on vibre pour la musique. Je veux fouler les planches du St. James Théâtre et ressentir l'énergie de toutes celles qui l'ont fait avant moi. Je veux m'enivrer des applaudissements du public. Je suis prête à travailler dur, à m'entraîner pendant des heures et des heures s'il le faut.
Montre-leur comment tu chantes,
murmure ma mère comme si le micro du caméscope ne pouvait pas l'entendre. J'acquiesce et je commence à interpréter une chanson de Yentl. Cette comédie musicale que ni ma mère ni moi ne parvenions à regarder sans y laisser un paquet de mouchoirs chacune.
Papa, please forgive me. Try to understand me.
L'adolescente à l'écran chante comme si sa vie en dépendait, comme si rien d'autre ne comptait. Chacun de ses mots, chacun de ses gestes sont incarnés. Mes lèvres forment les paroles en silence. J'ai la chair de poule, comment ai-je pu oublier? La chanson se termine. La jeune fille ouvre les yeux, un immense sourire éclaire son visage. Son regard reflète toute la fierté de sa mère.
Ils vont t'adorer! Tu es faite pour ça, ma Ginger, tu es faite pour devenir une star. Tu vas voir, cette vidéo va tout changer, j'en suis certaine. Je vais aller me renseigner et trouver les adresses des différents producteurs de Broadway. Il faudrait qu'on fasse des photos aussi, des photos en noir et blanc, comme celle d'Audrey Byrne. Oh, oh, il te faut des cours de claquettes. Tout le monde...
Je stoppe la vidéo. J'en ai vu et entendu assez. À l'époque, déjà... J'étais mal à l'aise avec ses emballements et son enthousiasme qui lui faisait perdre pied. C'est pour ça que j'ai tout enfermé dans des cartons. Trop destructeur, trop associé à elle. Terrassée par une fatigue aussi soudaine que violente, je pousse mon ordinateur et m'allonge sur mon lit. Je ne prends même pas la peine de me mettre en pyjama. J'ai besoin de dormir. Demain, tout ira mieux.
Demain, cette journée ne sera plus qu'un mauvais souvenir et je ferai ce qu'il faut, comme je l'ai toujours fait.
Je m'appelle Ginger, j'ai 17 ans. Je suis encore au lycée, mais mon rêve, c'est de chanter à Broadway.